enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Nous sommes dans plein cœur de cette série de messages intitulée « La génération Néhémie », à laquelle nous vous appelons à prendre part. Sept clés afin de rebâtir, être rebâti afin de rebâtir. Regardez ici un instant. Je vais vous dire, je vais vous partager une marque, un secret de la génération Néhémie, mais aussi un secret de la vie. Si vous voulez garder une fraîcheur dans votre vie chrétienne, si vous voulez garder une vivacité à votre vie chrétienne, une des clés du leadership chrétien, selon moi, c'est de cultiver et de garder une capacité de s'émerveiller pour l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Une des plus belles qualités qu'un leader peut avoir, c'est d'avoir un cœur qui continue à s'émerveiller pour la beauté de l'Église. Il y a, à mes yeux, à moi, c'est toujours avec des étoiles dans les yeux, c'est toujours avec les yeux brillants, c'est toujours avec le cœur ému que je regarde à l'Église. Après plus de 20 ans, je suis continuellement ému, émerveillé par la capacité rédemptrice de l'Église, par la génération Néhémie. Je vais vous dire, sans cette capacité d'émerveillement, sans ce sens que ce qui est important, ce qui compte, la raison pour laquelle on est là, l'essence de qui nous sommes, c'est de s'émerveiller, de voir ce que Dieu peut faire, le royaume de Dieu. Sans cela, le leadership chrétien peut devenir une suite. Et des leaders chrétiens peuvent devenir hargneux, peuvent devenir fermés, peuvent devenir petits, peuvent devenir ciblés sur un christianisme de règlements et de normes et de conventions. Sans la capacité d'émerveillement, un chrétien peut devenir refroidi, tiède, continuellement regardant à lui-même, égocentrique, nombriliste et devenu incapable de voir la beauté de ce qui se passe autour de lui. Je veux vous appeler, je veux vous rappeler, je veux vous défier à ne jamais perdre votre capacité de vous émerveiller pour le royaume de Dieu. Juste à chaque semaine, il y a toutes sortes de choses qui prennent place. Il y a tellement de raisons qu'il faut être aveugle ou être fermé ou être endurci pour ne pas simplement s'émerveiller, pour ne pas sourire. Juste toutes sortes de petites facettes. Pour moi, l'Église, c'est un diamant que tu peux regarder. À chaque fois que tu regardes, tu découvres et on va découvrir pour toujours une facette nouvelle et magnifique et belle qui nous coupe le souffle dans toutes sortes de façons. Moi, je suis émerveillé lorsque hier, je sais qu'il y avait la chorale, une de nos trois chorales, mais la chorale de l'Église qui s'est réunie, la directrice de la chorale et son mari qui les ont accueillis dans leur maison, dans leur cour. Il y avait 120 personnes dans une cour à Saint-Hubert, 120 personnes dans la même piscine. Alléluia! 120 personnes à la canicule hier. Jocelyn Olivier qui était là, qui faisait des hamburgers. Et il y avait tellement de monde qui était là avec les enfants et tout ça qu'il y avait une organisation incroyable pour le souper, pour l'après-midi de la chorale. Ma fille et d'autres jeunes filles avaient été contactées pour garder les enfants. Il y avait une garderie avec des dossards pour l'après-midi. On était en contrôle. La situation, ça allait assez bien. On était à peu près à 26 enfants, je pense qu'il y était 4 gardiennes, puis il y a une dame qui est arrivée avec 7 enfants. Alléluia! Elle est retournée avec 7, et ça, c'est un des miracles de Dieu hier après-midi. Alors, je veux simplement, il y en a partout dans la salle cet après-midi, s'il y a quelqu'un qui est à côté de vous, qui a un coup de soleil et peut-être qui était là hier après-midi, je veux simplement m'émerveiller pour des gens qui, toute l'année, ce groupe de personnes chantent, nous bénissent, bénissent Dieu, la fraternité, l'amour qui est ensemble. Et je veux m'émerveiller pour le cœur de Isabelle Dosseres, la directrice de la chorale, son mari, qui accueille tous ces gens-là. Voulez-vous juste m'émerveiller avec moi? M'émerveiller d'être assis cette semaine, d'être assis jeudi soir au souper bénéfice du groupe Action Nouvelle Vie, de voir ces centaines et centaines de dignitaires de gens qui avaient payé 250 $ du billet pour être assis, pour amasser des fonds pour le groupe Action Nouvelle Vie, de voir le maire de la ville, le chef de la police, des politiciens, des capitaines d'industrie, des gens d'affaires qui étaient là, et de voir un témoignage qui était là d'un monsieur qui, toute la communauté de la Rive-Sud qui est là, qui regarde ce vidéo où le monsieur remercie Nouvelle Vie pour le bien que Nouvelle Vie lui a fait, et de voir les milliers de personnes sur la Rive-Sud qui reçoivent de l'aide, et de penser à ces centaines de bénévoles qui distribuent la nourriture et toutes les tous les services qu'ils offrent à des milliers de personnes dans la Rive-Sud. J'étais assis là et je pensais à il y a 11 ans, quelques boîtes, quelques sacs, quelques paniers de nourriture qui commençaient à distribuer et à voir tout ce déversement, ce déploiement de croyants qui veulent aider les gens. J'étais émerveillé. J'étais émerveillé lorsque j'ai reçu un email cette semaine. Vous savez, nous arrivons à la fin. Pendant l'été, il y a un grand nombre de groupes cœur, Nouvelle Vie, nos groupes maison, des groupes cellules, des petits groupes qui se rencontrent. Il y en a plus de 90. Il y a plus de 1000 personnes, 1500 personnes certaines semaines qui se réunissent en petits groupes. Et d'entendre, de voir entrer tous les témoignages à chaque semaine. J'en ai reçu un cette semaine. Il y a un groupe qui s'appelle Vase Restauré pour des gens qui sortent de la dépression, des gens qui sortent de différents problèmes psychologiques, problèmes émotifs, problèmes très graves, sérieux problèmes de vie, des victimes d'abus, toutes sortes de... Et on a commencé avec une classe et maintenant, ils sont plusieurs classes et le pasteur Claude Bouchard donne un leadership à tout cela. Juste vous lire un email qu'il m'a envoyé cette semaine. Il m'a dit « Bonjour, pasteur Claude, mon cœur déborde de joie pour tout ce qui se passe à Vase Restaurée. Tous ces gens qui font des prises de conscience, des guérisons intérieures, qui sont délivrés, qui sont changés, qui connaissent le Seigneur, découvrent la voie de Dieu. Dimanche, le 12 juin, dimanche prochain, dimanche cette semaine, après la réunion du matin, 150 personnes vont se rendre au Holiday Inn pour un brunch 4 étoiles. Parmi les invités, il y aura des dizaines de nouveaux qui sont amis ou des membres de la famille qui ont vu des changements chez leurs proches. Et c'est la remise des diplômes de tous ceux qui ont gradué des 12 étapes de Vase Restaurée. Il y aura 54 récipiendaires du certificat remis à ceux qui complètent les 12 étapes. C'est du jamais vu jusqu'à maintenant. Plusieurs se rendent directement au dîner, mais j'aimerais qu'on applaudisse les gradués du Vase Restaurée qui sont assis ici ce matin. Émerveillez-vous de la génération Néhémie, de la capacité rédemptrice de Dieu à rebâtir des êtres humains. Quelques témoignages, je vais juste vous donner leurs lettres, pas pour donner leur prénom et tout ça, mais elle est un nouveau converti après 14 ans de dépression et 5 tentatives de suicide. Après plusieurs thérapies, il se joint au Vase Restauré. Hier, il a témoigné qu'il était à son 4e mois de guérison et que tous ceux qui le connaissent témoignent de sa transformation, qu'il est différent et que sa transformation est réelle. Lorsque S, je cache les noms, lorsque S a débuté le Vase, il était maniaco-dépressif, incapable de parler devant une seule personne. Hier, il a témoigné devant 50 personnes. Le groupe avait les larmes aux yeux, renversé de l'écouter et de s'émerveiller de ce que Dieu a fait. M fait du progrès depuis qu'il a commencé le Vase Restauré. Et les procédures de divorce avec son épouse ont été arrêtées et sa femme a repris courage. I vient d'un passé de dépression et dernièrement de crise d'anxiété épouvantable. Elle est en relation d'aide. Elle vit un changement qui est radical en ce moment. Elle réapprend à parler, à vivre, à sourire. M était un AA, membre des Alcooliques Anonymes depuis 20 ans. Mais maintenant, il a accepté Jésus. Il vient au Vase Restauré. Il a suivi le cours des nouveaux. Il y a de gros changements. Il croyait en un être supérieur. Mais maintenant, il connaît Jésus-Christ comme son sauveur et son Seigneur. Le frère de, il donne le nom d'une femme qui elle-même est graduée du Vase Restauré, elle-même a été soulagée et guérie de la dépression et elle-même maintenant témoigne de sa foi, une nouvelle chrétienne. Et le frère de cette dame-là était de passage au Québec dernièrement, professionnel, mais cocaïnomane, très découragé, au bord du suicide. Il est venu me rencontrer et a assisté au Vase Restauré. Il a accepté Jésus comme Seigneur, il s'est trouvé un job à Montréal et il va venir commencer à fréquenter l'Église Nouvelle Vie. M, un dernier, M a 52 ans de vie criminelle dans un style, et Claude me dit, il est dans le style de vie de, puis il me nomme un autre homme de notre église qui est criminel, qui avait été criminel pendant des années et qui a maintenant un père de famille et un témoignage. Tournez-vous vers quelqu'un à côté de vous et dites-lui, tu sais jamais qui est assis à côté de toi à Nouvelle Vie. Dites-le. Il y a des connexions extraordinaires qui prennent place dans la génération d'Émi. Écoutez, celle-là. M a 52 ans et une vie de vie criminelle dans le style d'œil, nomme le nom de l'autre personne qui est assise ici ce matin. Et il dit, il a accepté le Seigneur comme son sauveur. Sa vie est changée entièrement. Les habitudes qui le détruisaient ont cessé. Il est un homme nouveau. Il va recevoir son diplôme du Vase Restauré. Et sais-tu quoi? Il est venu au groupe parce qu'il était en dépression, mais il s'est fait ami très proche pendant la session avec un sergent de la Gendarmerie royale du Canada qui lui aussi était dans le Vase Restauré parce qu'il traversait une dépression. Combien croient que la meilleure place pour un gars de la GRC et un ancien bandit de se rencontrer, c'est dans un Vase Restauré à l'Église Nouvelle Vie? Ensemble! dans la génération Néhémie. Voulez-vous applaudir pour votre émerveillement pour l'œuvre du Seigneur? Alléluia! L'action et le cœur de Néhémie étaient motivés, étaient profondément motivés, et le cœur de la génération Néhémie est profondément motivé par le contraste entre l'état d'un peuple, la douleur d'un peuple, la douleur des gens et le désir de Dieu de les libérer. Et c'est carrément quelqu'un qui plonge au milieu, qui dit « il faut que je fasse quelque chose ». Néhémie, dans le premier chapitre, tous ceux qui se joignent à nous pour cette série qui continue depuis plusieurs semaines, Néhémie a entendu parler par ceux qui sont venus lui rapporter, ceux qui sont restés dans la captivité étaient là dans la province. Ils étaient au comble du malheur, ils étaient dans la honte, dans la ruine, dans l'opprobre. Les murailles étaient en ruine, les portes étaient consumées par le feu. Néhémie dit « lorsque j'ai vu l'état des gens, lorsque j'ai entendu ces choses, je me suis assis, j'ai pleuré, j'étais dans la désolation, j'ai jeûné, j'ai prié devant le Dieu des cieux. » Et le contraste entre l'état des gens et ce que Dieu voulait pour eux, parce que Néhémie dit, ces gens-là qui sont dans la souffrance, ces gens-là qui ont été abusés, il y a des témoignages que Claude m'a donné que même en donnant seulement la lettre, je ne veux même pas le dire encore, des choses, des personnes qui étaient dans le groupe en ce moment, qui étaient une véritable aurore, l'enfant martyr, abusé, séquestré, violenté, attaché, battu, tout ce que vous voulez. Néhémie a dit, lorsque je regarde la vie des gens comme ça, l'état dans lequel ils sont, et je regarde le désir de Dieu, lorsque je vois le peuple, mais pourtant ces hommes-là, ces femmes-là, ils sont tes serviteurs, ils sont ton peuple. Et Seigneur, tu les as rachetés par ta grande puissance et par ta main forte. Néhémie était motivé, nous sommes motivés par l'assurance que quelle que soit l'ampleur de la dévastation, la main de Dieu veut rebâtir ces gens-là. Ça, c'est la motivation profonde de tout ce que nous faisons de la génération Néhémie. Néhémie déclare que toute la puissance de Dieu leur est disponible. Il dit, ben, oui, voyez le malheureux état dans lequel nous sommes. La ville a été détruite par le feu, mais venez, venez, rebâtissons. Et je leur ai raconté comment c'est la main de Dieu qui était avec moi. Il dit, oui, tu as été démoli par la main des hommes, par la main de la vie, par la main de ton passé, mais la main de Dieu veut te rebâtir. Toute la puissance de Dieu t'est disponible. Et ce thème-là, il est dans toutes les Écritures. Dans ma dévotion, mes dévotions personnelles cette semaine, dans ma lecture, j'étais rendu à lire Colossiens. J'ai lu Colossiens cette semaine. J'étais frappé, c'était comme à travers des siècles et même des millénaires, le cœur de Paul qui écrit aux Colossiens, qui est dans la génération Néhémie, le cœur de Néhémie qui disait « toute la puissance de Dieu est disponible pour vous ». Et Paul disait aux Colossiens « devenez puissants à tout égard par sa force glorieuse, en sorte que vous soyez toujours avec joie persévérant et patient. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable. » L'appel de Dieu est que chaque croyant, chaque jour, grandisse en puissance. Et c'est Dieu qui nous rend capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Et les mots sont magnifiques. Il nous a délivrés de la puissance et il nous a transportés. Il nous rend capables, il nous délivre, il veut nous transporter de l'état des murailles détruites à l'état de restauration dans lequel il y a pour nous. Il y a une puissance disponible, Paul dit aux Corinthiens. C'est à quoi je travaille. En combattant avec sa force. C'est ça notre vision, c'est ça notre vie, en combattant avec sa force, sa puissance qui agit puissamment en moi. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et il y a des clés que nous découvrons ensemble pour relâcher, pour déverrouiller cette puissance dans nos vies. Nous avons vu ensemble dans le livre de Néhémie la clé de l'espoir, la clé de l'enthousiasme parce que nous sommes une équipe. Nous avons vu la clé de l'esprit et une quatrième clé ce matin afin de prendre, s'emparer de notre héritage dans la génération Néhémie, ce que j'appelle la clé de l'engagement. Néhémie chapitre 1 au verset 5. Et je dis, ô éternel Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui gardent tes commandements. Voulez-vous dire à voix haute à ceux qui gardent tes commandements. Après des années à servir le Seigneur, il y a une chose qui devient extrêmement évidente, qu'une des clés absolues et essentielles pour faire partie de la génération d'ennemis et être rebâti afin de rebâtir, c'est un engagement, une persévérance, un cœur qui s'accroche, que tout ce que vous avez été, tout ce que vous avez pu expérimenter, tout ce que vous avez pu connaître de Dieu, n'est d'aucune valeur si vous ne persévérez pas, si vous n'êtes pas engagé. Le salut que vous avez connu il y a 1 an, 10 ans, 20 ans ou 30 ans, ce salut-là que vous avez connu peut s'effriter terriblement si vous ne vous engagez pas et ne persévérez pas dans ce salut que le Seigneur vous a donné. Que le fait que vous ayez été entré, que vous êtes entré dans la sanctification il y a 1 an, 2 ans, 5 ans, 20 ans, et vous avez obtenu des délivrances magnifiques dans votre vie, votre sanctification peut devenir d'absolument aucune utilité et vivacité et réalité aujourd'hui, à moins que vous ne persévérez. Est-ce que vous comprenez? C'est-tu un homme qui se sanctifie il y a 20 ans, mais qui cesse, qui ne persévère pas? La sanctification d'hier n'apportera pas une pureté dans votre vie aujourd'hui. Le pardon que vous aviez il y a 20 ans, la capacité, lorsque vous êtes donné au Seigneur, de pardonner, de relâcher, n'est d'aucune utilité si vous ne persévérez pas dans ce pardon. La générosité que vous aviez hier, la louange que vous aviez hier, les habitudes de lire la parole de Dieu, le zèle pour Dieu, la capacité de témoigner votre foi, ce que nous étions était magnifique et bien, mais n'est d'aucune utilité aujourd'hui, à moins qu'aujourd'hui j'ai cette clé d'engagement, que je garde ces commandements. L'apôtre Paul, encore une fois, j'aurais pu faire le parallèle pendant tout le message, ça m'a fasciné cette semaine, de Néhémie à Colossiens, comment, d'une même pensée. L'apôtre Paul le dit de cette façon dans Colossiens. Il vous a maintenant réconcilié par la mort dans le corps de sa chair, Colossiens 1, 19 à 23, pour vous faire paraître devant lui sans défaut et sans reproche, si vraiment vous demeurez dans la foi. Que toutes ces richesses de Dieu sont pour ceux qui demeurent, ceux qui gardent, ceux qui s'engagent. C'est une osmose. Que toute la puissance de Dieu est là. Et suivez-moi bien. Notre engagement, ça, le christianisme, c'est pas seulement une série de résolutions. Tu peux faire toutes les résolutions du monde par ta propre force. Tu n'arrives pas à accomplir les résolutions que tu fais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a découvert ça? En même temps, toute la puissance de Dieu peut être disponible. Alors pourquoi y a-t-il tant de gens si peu victorieux? Pourquoi y a-t-il tant de gens qui retombent, qui abandonnent leur foi, qui souillent leur témoignage, qui font de la peine à tous ceux qui connaissent, qui sont misérables dans leur vie chrétienne, si toute cette puissance-là est disponible? L'apôtre Paul dit, il vous a appelé à vous emparer de votre héritage, à paraître devant lui, irréprochable, sans reproche, si toutefois vous gardez la foi. Si tu t'engages, et dans les temps, à travers les siècles, ce principe est là, mais l'abandon, le manque d'attachement, la trahison, le relâchement, le manque de commitment, d'engagement, est une marque prophétique des temps de la fin. Ce que la Bible enseigne, c'est que ça va être présent à travers les siècles, mais qu'il y aura dans le monde moderne des temps de la fin une particularité, une particularité d'abandon, de relâchement, de traîtrise, que la parole ne veut plus rien dire, les engagements ne sont pas tenus, que les engagements les plus fondamentaux de la vie sont reniés. Ça a pris place à travers les siècles. Mais une intensification dans le monde moderne. Lorsqu'hier, je suis en train de préparer mon message et que je suis branché à RDI en sourdine et que je regarde les nouvelles, et que tout à coup, ce documentaire-là apparaît de ces parents après parents et pères après pères après pères qui abusent leurs enfants, qui violent leurs enfants, qui battent leurs enfants et qui complètement ont abandonné toute notion de ce qu'un père pourrait être. Lorsqu'on regarde partout autour de nous à tout ce qui est brisé, tout ce qui est cassé, nous avons la parole prophétique. Sachez que dans les temps de la fin, il y aura des jours difficiles. Les hommes seront égoïstes. Ça, ce que ça veut dire, c'est qu'ils sont engagés seulement envers eux-mêmes. Ils ne sont pas engagés envers les autres, ils sont tournés vers eux-mêmes. Ils sont égoïstes. Ils sont amis de l'argent, ils sont engagés envers leurs choses matérielles. Ils sont traîtres, ils ont une capacité de briser les engagements qu'ils ont pris. Ils sont orgueilleux, ils sont engagés envers leur image. Ils sont rebelles à leurs parents, ils n'ont pas cet engagement envers leur famille. Ils sont ingrats. Même pas cet engagement envers Dieu, rapidement oubliant tout ce que Dieu leur a donné. Ingratitude. Ils sont sans frein. Ils sont impulsifs. Pas d'engagement, des principes à long terme, des principes qui devraient être leur principe de vie, mais sur une impulsion, sur une passion, sur un désir, sur un fantasme, sont prêts à tout basculer, tout balancer. Impulsifs. Aiment leur plaisir plus que Dieu. Ils gardent une forme extérieure de la piété. Ils sont à l'Église, mais ils ont renié l'engagement. Renier ce qui en fait sa puissance. Éloigne-toi de ces hommes. L'Esprit dit expressément, l'Esprit d'abandon des temps de la fin, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, ils abandonneront la foi. Écoutez Jésus décrire l'atmosphère, décrire les caractéristiques du peuple des temps de la fin. Alors qu'il décrit une série d'événements qui vont prendre place, il parle d'un signe clair de la fin. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Il va y avoir une persécution des croyants. Il va y avoir une attitude d'intolérance envers les valeurs chrétiennes. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Et à cause de cela, il y a plusieurs chrétiens qui vont carrément me trahir. Ils vont succomber. Ils vont vous trahir. Ils se trahiront. Ils vont s'haïr les uns les autres. Des gens qui ne persévéreront pas. Des gens qui vont perdre leur engagement. Parce qu'il y a une persécution, puis aussi parce qu'il y a une méchanceté autour. Où la valeur chrétienne est en dichotomie, est en contraste. La valeur de pardon, de justice, d'équité, de fidélité. La valeur d'engagement est complètement étrangère dans un monde où l'iniquité sera accrue. L'amour d'un grand nombre se refroidit. La bonne nouvelle du royaume est prêchée dans le monde entier, et ça c'est la réalité que nous vivons en ce moment, plus de proclamation de l'Évangile dans le dernier 20 ans, dans le monde entier, accomplissant cette prophétie, que de la croix de Jésus-Christ à 1980. Ça, cette prophétie-là s'accomplit. Et Jésus dit, en même temps, il va y avoir toute cette multitude de croyants qui se relâchent, qui se trahissent, qui perdent leur engagement. Et alors viendra la fin. Mais celui qui persévérera, qui s'engagera, jusqu'à la fin, sera sauvé. Pas par mes propres forces, pas par ma capacité, pas par orgueil, pas avec un sentiment que ça va être facile, pas avec un sentiment que moi je suis meilleur que les autres, toi ça peut t'arriver, mais pas à moi, mais avec crainte et tremblement, je vous dis que l'objectif numéro un de ma vie, au-delà de n'importe quoi que je ferais pour Dieu, c'est de garder mon engagement envers Jésus-Christ. Moi et ma maison, nous servirons et nous persévérons jusqu'à la fin. Et vous? Génération Néhémie. Génération Néhémie est une génération d'engagement, très, très, très en contraste avec une société qui ne veut pas s'engager en rien, une société qui ne veut aucune responsabilité, société d'hommes, de femmes qui abandonnent leurs engagements, société de jeunes qui ne veulent pas s'engager, de gens qui veulent s'engager. La génération Néhémie arrive. Néhémie est animée d'un farouche esprit d'engagement. Continuellement, du premier au dernier chapitre, il dira, « Si vous gardez mes commandements, si vous vous engagez envers les commandements de Dieu. » Et on débute ce matin dans les prochains messages, juste à regarder à certaines facettes de cet engagement trouvé dans le livre de Néhémie. Engagement vers notre famille, notre foyer. Engagement financier, engagement malgré nos frayeurs. Tous ceux qui veulent faire l'étude, regardez comment l'engagement est écrit dans chaque chapitre du livre de Néhémie. L'engagement malgré nos frayeurs. Lorsque j'ai peur, qu'est-ce qui va m'arriver? Je continue avec engagement. Engagement quand je suis faible, mais aussi engagement quand je suis fort. Beaucoup de gens, lorsqu'on passe un temps difficile, on est à genoux, on pleure. « Oh Dieu, m'a te servir, je vais te donner toute ma vie, sors-moi de là! » Combien d'entre vous, vous êtes venus au Seigneur à un moment de votre vie que j'appelle un moment « sors-moi de là, levez vos mains. » Mais c'est aussi une marque d'un croyant de la génération Néhémie de continuer à engager, garder mon engagement envers Dieu quand je suis fort, quand je suis béni, quand ma business prospère, quand ça va bien, quand je pourrais croire le mensonge et l'illusion de l'ennemi, que je peux là m'arranger moi-même maintenant. Est-ce que vous me suivez? Dieu veut une relation avec vous qui est bien plus que vous vous mettez dans le trou, vous criez désespérément dans son amour, il vous sort du trou, vous l'oubliez, vous le négligez pendant des années ou des mois, vous vous remettez dans le trou, il vous sort du trou par son amour et sa miséricorde, et après ça, il vous relève, vous l'oubliez et vous brisez vos engagements envers lui pendant des mois et des années, vous vous remettez dans le trou. Combien croient que la relation que Dieu veut avec son peuple est une relation que lorsque je traverse la vallée de la mort, je suis engagé envers lui, mais lorsque je marche dans la montagne de la bénédiction, mon cœur, mon engagement, mes engagements devant lui ne vacillent pas parce que c'est lui qui est la source de ma bénédiction. Quand je suis faible, quand je suis fort, quand je suis dans des frayeurs, en toute la d'un engagement de foi et de ferveur. Et ce matin, je regardais seulement une première portion, une première pensée. Et ça commence là pour chacun d'entre nous. Je veux vous appeler à cette génération qui a un engagement de cœur si vous gardez ses commandements, si toutefois vous continuez dans la foi, si vous persévérez jusqu'à la fin. Un engagement envers notre famille et notre foyer. Le livre de Néhémie, dans le premier chapitre, a ces mots magnifiques. Seigneur, sois attentif. Et que tes yeux soient ouverts. Écoutez la prière. Écoute, Seigneur, la prière de ton serviteur. La prière que je t'adresse en ce moment, jour et nuit. Néhémie dit, c'est ça qui est mon engagement, c'est ce qui est ma vie. Pour tes serviteurs, pour les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et ma famille, voulez-vous dire à voix haute, et ma famille. Je vous ai montré dans le chapitre 3 le portrait magnifique de comment une série de noms qui semblent sans importance, mais qui nous rappellent que chaque personne et personnelle et importante devant Dieu. Un appel qui est pour chaque personne. Il y a autre chose, un portrait qui est magnifique. Ce n'est pas seulement des noms dans les chapitres où il y a les nomenclatures, des listes de Néhémie, c'est des familles qui sont représentées. Il y a des mots d'une simplicité, mais d'une beauté qui exprime mon cœur à moi. 2500 ans plus tard, ça nous dit que dans le Néhémie chapitre 3, vous allez lire tout le chapitre, mais je prends le verset 10 à 12 qui apparaissent à l'écran. À côté d'eux travailla vis-à-vis de sa maison Jedaja, le fils d'Arumaph. À côté de lui travailla Hattush, fils de. Une autre portion de la muraille et la tour des fours furent réparées par Makija, fils de. Un peu plus loin, à côté d'eux travailla avec ses filles, Shalom, fils d'Aloesh, chef de la moitié, et les mots résonnaient dans mon cœur toute la semaine. Avec mon fils, avec ma fille à côté de moi, mon fils à côté de moi. La génération Néhémie est engagée à une vision qu'alors que nous œuvrons, nous servons Dieu de tout notre cœur, nous demandons à Dieu de nous rebâtir, nous. Nous voulons le faire avec une persévérance qui ne lâchera jamais, avec nos fils, avec nos filles. Mon fils à côté de moi, ma fille à côté de moi sur la muraille, bâtissant ensemble le royaume de Dieu. Que ceux, mon fils, mon père, ma mère, mon frère, ma soeur, je regardais des jeunes hommes qui sont revenus au Seigneur dans les derniers mois, que ce soit toi maintenant qui sois le combattant pour tes frères, que ce soit toi maintenant qui sois le combattant pour tes autres frères qui ont besoin de revenir au Seigneur, ou tes soeurs, cette pensée pour tous les parents qui sont ici. La génération, Néhémie, je ne veux pas, je ne crois pas, et je résiste, et je le dis avec douceur, à ce type de chrétien qui est tellement consumé pour la vision pour le monde et qui va de conférence en conférence et qui va de grande vision en grande vision et qui répond à l'appel de Dieu avec sa propre famille qui est décimée. Je refuse ce type de christianisme. La génération Néhémie, elle a une vision pour Haïti, pour le monde et pour la planète. La génération Néhémie, elle a un engagement par la grâce de Dieu. Mon fils à côté de moi. Ma fille à côté de moi, ma famille à côté de moi, moi et ma maison, engagés, Seigneur, pour notre foyer et engagés pour les nôtres. C'est l'engagement premier. Il y a quelques semaines, il y a une émission de télévision, un reportage d'une télévision européenne qui est venue ici. Ils nous ont interviewés longuement pour toutes sortes de choses. Ils m'ont interviewé longuement pour toutes sortes de choses. Et leur prémisse de base, c'était l'Église. Les églises sont fermées partout. Les cathédrales se vendent. Il n'y a plus personne qui est... C'est seulement des personnes âgées. Il n'y a plus rien dans les églises. Et là, ils venaient faire un reportage. Comment ça se fait qu'il y a des milliers de personnes à l'Église Ouvelle-Vie, etc., etc. Et on me dit que ça va passer à travers l'Europe. Et une des questions qu'ils m'ont posées était très directe. C'était un intervieweur français qui disait... Il me demandait, quelle est votre première valeur? Quel est votre premier engagement? Quelle est la notion de base? Quelle est la pièce fondatrice, etc., etc.? Et j'aimerais répondre à vous ce que j'ai répondu à lui. Notre engagement premier, c'est nos familles. Notre engagement premier, c'est de voir le royaume de Dieu là où nous sommes, dans nos familles, et de familles qui sont moi, et je ne l'ai pas dit à lui dans ces mots-là, mais ma fille, mon fils, mon épouse, mon frère, ma soeur, les gens autour de moi, des familles dans une société où la famille est explosée. Il y a un endroit qui s'appelle l'Église du Seigneur Jésus-Christ où l'engagement envers la famille veut encore dire quelque chose. C'est pourquoi il y a tellement d'efforts, il y a tellement... Amen. C'est pourquoi il y a tellement d'efforts, c'est pourquoi il y a tellement de portions du budget, c'est pourquoi il y a tellement de travail, des années, continuellement, et ça va l'être, c'est notre engagement, notre promesse envers cette Église, c'est que vous et votre famille, vous et vos enfants, vous, votre mariage, vos enfants, votre couple, vos bébés, vos enfants, vos ados, vos pré-ados, vos ados, vous, votre couple, votre vie, vous, vos parents, vous, votre famille, va, a été, est et sera notre engagement premier en tant qu'Église. Au mois de septembre, j'étais tellement excité. C'est l'été, puis on a beaucoup de choses qui sont en préparation pour septembre. Il va y avoir un dimanche matin, dans le début du mois de septembre, où nous allons présenter sur l'estrade de l'Église. Et il y a beaucoup d'entre eux qui sont maintenant des pasteurs, qui sont temps plein, d'autres vont être à temps partiel. Mais notre vision à très, très, très court terme, c'est de présenter devant cette Église, voici maintenant l'équipe pastorale. Voici la les pasteurs pour les enfants. Voici les pasteurs pour les pré-ados. Voici les pasteurs pour les ados. Qu'à l'Église Nouvelle-Vie, il va y avoir les pasteurs pour les jeunes adultes, l'âge collégial. Les pasteurs pour les couples. Je vous annonce qu'il va y avoir en 2005, au mois de septembre, on va annoncer le pasteur et l'équipe pour les couples. Sa vision, c'est les couples, se donner aux couples de tous les âges. Les pasteurs des couples de tous les âges, des célibataires et des sans-conjoints. Nous croyons, je le dis à tous les célibataires de cette église, nous voyons le ministère des célibataires se développer, mais nous croyons que ce n'est qu'un commencement. Nous avons la vision de pasteurs et d'équipes pastorales pour les sans-conjoints et les célibataires de l'Église Nouvelle Vie. De pasteurs de qui sont là pour les femmes. Nous avons Stéphanie Rieder qui fait un ministère pastoral, mais toute une équipe pasteurs pour les femmes, pasteurs pour les hommes, dans un avenir très rapproché. Un pasteur à l'Église Nouvelle Vie qui il se lève, il mange, il dort, il boit, il réfléchit à une seule chose, comment aider les hommes de l'Église Nouvelle Vie. Laissez-moi entendre un gros amen, gras et bas. Amen. Célibataires, femmes, hommes, personnes âgées. Mois de septembre, nous allons annoncer un pasteur responsable pour les personnes 50 ans et plus, le bel âge, 55 ans, 60 ans et plus, le bel âge, que chaque personne, nous voulons prendre un engagement envers vous et nous voulons, en tant qu'Église, nous engager afin que nous et notre maison, quels que soient les âges, à chaque jour de la semaine, tous les jours de la semaine, tous les mois de l'année, quelles que soient les circonstances, toute situation, tout arrière-plan, tous les âges, à chaque jour, à l'année longue, engager afin que toi et ta maison, toi et ton couple, toi et tes enfants, ensemble sur le mur, on peut se dire, avec mon fils, avec ma fille, avec ma femme, avec mon mari, avec mes enfants, nous allons avancer et s'emparer de ce que Dieu a pour nous. Vous devriez dire amen si vous croyez à cette vision, à cet engagement premier envers la famille. Ça, c'est l'engagement de l'Église. Mais alors que j'arrive, je tourne vers la fin du message. Et vous ce matin, est-ce que vous allez prendre, vous, cet engagement, renouveler cet engagement envers votre famille, vos fils, votre mariage, votre couple? Je regardais, je me levais, je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères. Néhémie 4:8. Combattez pour vos frères, combattez pour vos fils, combattez pour vos filles, combattez pour vos femmes et combattez pour vos maisons. Je me tiens devant le peuple de l'Église Nouvelle-Vie ce matin. Je dis, ne craignez pas, ne désespérez pas, n'abdiquez pas, ne lâchez pas, n'acceptez pas. Encore aujourd'hui, le pharaon satanique dit encore, comme il a dit au peuple d'Israël, « Vous, je vais vous laisser entrer dans la terre promise, mais je vais garder les enfants en arrière. » Et nous, on dit non, si moi j'y vais, mes enfants viennent avec moi. Alors, je t'appelle ce matin à te réveiller. Je t'appelle à refuser l'état de ce qui est inacceptable. Je t'appelle à prier encore, à parler encore à tes enfants, à ton mari, à ta femme, à tes enfants. Je t'appelle à parler. Je t'appelle à prier. Je t'appelle à t'asseoir, papa, avec ton fils. Puis même si t'es mal à l'aise, puis même si je sais pas comment commencer, à chercher une façon de lui parler de Dieu. Je t'appelle à pardonner. Je t'appelle à persévérer. Je t'appelle à prendre l'engagement à combattre pour ta famille au nom de Jésus. Néhémie a dit, soyez alerte. Néhémie a dit, il y a un adversaire, Néhémie 4:5. Un adversaire qui s'est dit, ils ne sauront rien, ils ne verront rien jusqu'à temps que ce soit trop tard. L'ennemi avait dit, m'a m'infiltré au milieu d'eux. Je vais m'infiltrer, ils verront rien. Je vais être rendu au milieu d'eux. Et après ça, je vais leur enlever la vie puis je vais faire cesser leur ouvrage. Un ennemi de votre âme encore aujourd'hui qui dit, ils verront rien, ils discerneront pas, je vais m'infiltrer, je vais entrer dans la maison pour leur saper leur vie, pour leur voler leurs enfants. L'apôtre Paul dit aux Colossiens, devenez puissants à tout égard. Dieu vous a rendu capable si vous demeurez dans la foi. Et c'est fascinant, elle a dit à Pauvin, que le Colossien parle à la famille. Il y a un message pour les femmes, pour les maris, pour les enfants, pour les pères. Néhémie avait dit, combattez pour vos enfants. Je le rends très, très personnel dans la fin de ce message. Le combat pour la famille, c'est quelque chose de très personnel. C'est quelque chose qui se vit pas seulement à l'église, c'est pas éthérique, c'est pas symbolique, c'est pas mystique, puis c'est surtout pas seulement le dimanche entre 10h et midi. Le combat pour la famille, c'est toute la semaine. C'est des papas qui prennent des décisions lorsqu'ils sont à leur travail et que sa famille ne le voit même pas. C'est des hommes qui décident de comment ils vont se comporter, de ce qu'ils vont regarder, de ce qu'ils vont faire. L'apôtre Paul leur dit, il y a une puissance en Dieu pour vous. Si vous gardez la foi, Dieu a une puissance pour vous. Puis là, dans l'épître 1 et 2, il parle de la puissance et de l'engagement. Chapitre 3, il parle des messages pour les hommes, messages pour les femmes, messages pour les enfants, messages pour les pères, messages pour les mères. Et il dit ces mots, « Faites donc mourir tous les membres qui sont de la chair, de l'impudicité, de l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. » Le combat pour la famille, c'est pas juste à l'église. Le combat pour la famille, c'est toute la semaine, un combat de chaque jour contre l'impudicité, l'impureté, l'adultère, le mensonge, la fraude, la sensualité, la vulgarité qui nous entoure. Les vœux de mariage que j'ai pris envers ma femme, les vœux d'être un père pour mes enfants, les vœux d'honnêteté, les vœux envers la maison de Dieu. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez avant lorsque vous étiez dans vos péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. Laissez-moi terminer ce message pendant que les musiciens s'approchent. Laissez-moi être pratique. Écoutez-moi bien. Ce message peut sauver votre vie. Laissez-moi être pratique ce matin. Pas seulement à l'église, c'est pas éthérique, c'est pas mystique, c'est très pratique. Être engagé envers ma famille, être fidèle à Dieu, être engagé envers lui, c'est des choses très pratiques. C'est être engagé, par exemple, dans vos rapports avec le sexe opposé. Tous les hommes qui sont ici, les femmes qui sont ici, comment vous vous comportez avec les filles au bureau, les secrétaires, la serveuse au restaurant, les filles au travail, les filles à l'école, les hommes, les femmes? Si vous êtes, est-ce que vous allez être de cette attitude, de cet esprit de flirt continuel, de checker tout le temps, garder, essayer d'allumer des feux partout continuels qui est partout autour de vous? Ou est-ce que vous allez être de la génération Néhémie qui dit, quand je pars le matin, que j'embarque dans ma voiture, c'est pas seulement à l'église le dimanche matin que je suis en génération Néhémie. C'est dans ma voiture, lorsque je m'en vais au travail, que même les gens au travail peuvent dire, cet homme-là, il est toujours gentil, cet homme-là, il est toujours poli, mais il y a quelque chose de différent dans son engagement envers sa femme, envers son épouse, envers ses enfants, et les femmes envers leur mari. Quelqu'un devrait dire amen. Être engagé envers ma famille, c'est mon comportement avec le sexe opposé. C'est mes sorties et mes activités d'été. C'est les décisions que vous allez prendre. Vous pouvez débattre pendant des années, il y a des gens qui, pendant des années, qui vont chercher à, qui font toutes sortes de décisions petit à petit. Chrétiens qui se... Écoutez-moi bien, que chacun s'examine soi-même. Vous n'êtes pas là pour juger quelqu'un d'autre. Le grand débat, c'est si tu mal, si tu pas chrétien d'aller au festival de jazz, si tu pas chrétien d'être dans une brasserie avec une bière devant toi, si tu pas chrétien de... Là, tout le monde se fait rage là-dessus, puis là, on... Moi, juste vous dire ceci. Faites attention à votre âme pendant l'été 2005. Il y a quelque chose, si tout ton été est passé, un chrétien peut aller avec d'autres chrétiens dans un événement et tenir son témoignage et s'en retourner chez lui. Mais il y a aussi énormément de chrétiens qui s'en vont dans des places puis qui passent des heures et des heures et des heures à prendre une bière puis un autre, puis une boisson puis un autre, avec le soleil qui leur tape sur la tête, entourés de milliers de personnes qui sont à moitié nues, dans un esprit de sensualité et de vulgarité, et mois après mois, puis la fois d'après, t'en fais un petit peu plus, puis la fois d'après, t'en fais un petit peu plus. Puis alors que tu fais ça, crois-moi que tu n'as plus aucune position pour dire à ton fils de 16, 17, 18 ans de ne pas le faire. Puis toi, peut-être que tu vas rester accroché à l'église par la... Écoutez, non, plus, tu sais pas. Peut-être que toi, tu vas rester à l'église, puis tu vas passer à travers avec ton salut par la peau des dents. Mais ton fils de 18 ans, lui, il va passer dans le tourbillon. Puis tu te présenteras devant Dieu, puis t'expliqueras pourquoi c'était correct. Je vais vous parler d'une génération ce matin qui dit que tout ce qui est pur, tout ce qui est droit, tout ce qui mérite l'approbation soit l'objet de mes pensées. Je ne veux pas passer mon été à baigner dans la sensualité et dans la vulgarité. On ne sait pas quoi dire à vos enfants. Nos pasteurs de jeunesse ne savent pas quoi dire à vos fils et à vos filles si votre vie ne reflète pas les valeurs que nous essayons de leur communiquer. Dans votre assiduité à la maison de Dieu. Je m'en vais en vacances pour 4 mois, vous me reverrez à l'église au mois d'octobre. Allez-vous arrêter de manger pendant l'été? Allez-vous arrêter de vous laver pendant l'été? Allez-vous arrêter de vous nourrir pendant l'été? Vous allez arrêter comme ça spirituellement de vous attacher à la maison de Dieu pendant des mois et des mois. Dans vos conflits devant vos enfants, dans vos discussions d'église devant vos enfants, vous pouvez prendre un engagement de dire, je vais avoir la maturité que lorsque je vais parler de Jésus-Christ, de l'église de Jésus-Christ devant mes enfants, je vais le faire d'une manière qui va cultiver l'émerveillement dans leur cœur. Dans vos responsabilités envers ce que vos enfants écoutent et regardent, ce qu'ils fréquentent. L'engagement envers la famille, c'est qui garde tes enfants cet été? Est-ce qu'ils se gardent eux-mêmes? Qu'est-ce qu'ils regardent à la télé? Qu'est-ce qu'ils écoutent? C'est qui la gardienne? C'est qui l'amène à la maison? Y a-t-il quelqu'un qui les garde? C'est quoi les films qu'ils regardent? Es-tu prête à... Le club vidéo ne peut pas être ta gardienne. Qu'est-ce que ton fils regarde sur Internet? C'est quoi la musique qu'il écoute? L'engagement vers la famille, c'est j'ai le courage de m'asseoir, de parler, de discuter et de prendre des décisions de parents. De regarder ce qui se passe chez nous. Pas laisser n'importe qui garder ma fille, garder mon fils. Les laisser se garder eux-mêmes à 12, 13 ans. Laisser des heures complètes que tu ne sais même pas où ils sont ou avec qui ils sont. L'engagement vers la famille, c'est dans un couple. C'est le genre d'amitié que je veux maintenir. Mes collègues, le clavardage. Épidémie de couples qui se brisent parce que elle s'est liée d'amitié avec quelqu'un sur Internet. Lui s'est liée d'amitié avec quelqu'un sur Internet. Prenez l'ordinateur, mettez-le dans une pièce de la maison avec les portes ouvertes que tout le monde peut voir. Madame, tu as le droit d'avoir accès à tout ce que ton mari regarde. Monsieur, à ce que ta femme regarde. Et toi-même, devant Dieu, lie-toi d'amitié avec ta femme et avec ton mari seulement. Au nom de Jésus. Clavardage. Engagement envers la famille. Dans la vigilance concernant l'état de votre cœur, dans vos visionnements vidéo et Internet, dans votre combat et votre engagement envers le Seigneur pour votre foyer et votre famille. Puis c'est tellement solennel dans Néhémie, pendant que Mélanie va commencer à jouer doucement. Voici ceux qui apposèrent leur sceau. Puis il y a toute une liste de noms de gens. Voici l'engagement qu'ils ont pris. Le reste du peuple, les sacrificateurs, les lévites, les chantres, les néticiens, tous ceux qui se sont séparés pour suivre la loi de Dieu avec leurs femmes, leurs fils et leurs filles, tous ceux qui sont capables de connaissance et d'intelligence, se joignent à leurs frères, les plus considérés d'entre eux. Ils promettent et font serment et jurent de marcher selon la loi de Dieu, de la mettre en pratique. Écoutez bien la promesse qu'ils ont faite. Nous promettons de ne pas abandonner nos fils. Néhémie 10, 31. Nous promettons de ne pas abandonner nos fils, de ne pas abandonner nos filles aux gens de notre pays, aux ennemis qui nous entourent, aux influences de la vie moderne et à l'esprit de notre époque. Moi, je veux faire cet engagement-là ce matin. Je promets devant Dieu que je ne laisserai pas mes enfants à ce monde autour de moi. La scène est tellement saisissante. C'est des familles qui se lèvent et ça dit... Hommes, femmes, couples, et tous ceux qui ont l'âge de comprendre. Le texte dit, il y a un portrait de petits-enfants. Dans notre monde moderne, tout va plus vite. Les enfants les plus jeunes assimilent toutes sortes de choses. Les enfants de... ça nous fait sourire lorsque tu regardes les enfants des émissions. Je ne sais pas comment ça s'appelle, l'émission avec... l'émission avec des petits-enfants qui chantent et qui font du lip-sync. Ou qui chantent des chansons avec Charles Lafortune. Je regarde l'émission avec mes enfants, puis des petits-enfants de 4 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ils connaissent toutes les paroles, ils chantent au complet. Mais vous avez déjà entendu des fois les paroles que une petite fille de 6 ans, une petite blondinette de 6 ans, chante la chanson de Marjo. Provocante! Puis elle la chante au complet, du début à la fin. Des enfants qui écoutent les vidéos, regardent les films, regardent les affaires, qui s'habituent à un niveau de violence hallucinant par tous les slasher movies qu'ils regardent à partir de l'âge de 11 ans, 12 ans. Néhémie dit, les enfants ont une capacité de comprendre, c'est la responsabilité à la façon dont ils peuvent le comprendre, à leur jeune âge, de commencer à leur communiquer un certain engagement. C'est fascinant de voir des enfants si jeunes qui ont des idées pour l'avenir tellement. Le fils de notre missionnaire, John Cottrell, un de ses fils, Daniel, le plus jeune, a 5 ans. Pasteur Mark et moi, on est en Haïti. Et il y a quelques semaines, on était supposé aller souper le dernier soir chez les Cottrell. Puis j'ai une grande amitié, moi, avec Daniel. He's my buddy. À 5 ans, Daniel et moi, on s'entend extrêmement bien. Peut-être un petit peu le même niveau intellectuel. Alors, on s'entend très bien tous les deux. Moi puis Dan, on est très, très, très potes, très copains. Et là, ce soir-là, j'avais eu une touche de ce qu'ils appellent « Haitian happiness ». Alors, une diarrhée haïtienne hallucinante. Je vais vous épargner les détails. Mais je suis resté à l'hôtel, et là, Daniel était inconsolable. Il pleurait parce que Claude, son ami, ne pouvait pas venir. Et il a prié pour moi parce que j'étais malade, etc. Puis on avait beau dire, il va être correct. Ça va être... Il avait vraiment de la peine. Alors, quand j'ai su ça, j'ai envoyé un email la semaine après lorsque j'en ai mis. J'ai dit, cher Daniel, je vais beaucoup mieux. Alors, merci de tes prières. As-tu prié pour moi? Merci, Daniel. Et là, il m'a écrit, puis il écrit, oui, j'avais prié pour toi. Puis j'ai envoyé un de mes livres, il ne peut pas le lire encore, mais j'ai écrit, lorsque tu seras assez vieux, tu pourras le lire. Puis il dit, j'ai reçu ton livre, et à tous mes amis qui viennent à ma maison, je dis, c'est mon ami Claude qui l'a écrit. Ma fille gardait les enfants hier. Petit gars de 5 ans, magnifique petit garçon latino de 5 ans. Joue au basketball. Ma fille dit, qu'est-ce que tu vas faire plus tard? Tu vas être un joueur de basket? Très réfléchi. 5 ans. Il dit, non, je ne suis pas un joueur de basket. Il dit, moi, je vais avoir telle coupe de cheveux, je vais avoir une boucle d'oreille diamant, puis je vais être un breakdancer. Il avait toute son année déjà toute faite, lui, à 5 ans. C'est nous qui allons décider quelles vont être les valeurs, les engagements, les priorités, la vision de la vie. C'est où la télé? C'est où dans une galaxie près de chez vous? C'est où les films? C'est où les films d'horreur? C'est où leurs amis à l'école? C'est où le club vidéo ou l'Internet qui va déterminer ce qui est important pour vos enfants? Ou c'est vous et moi? Par la grâce de Dieu qui allons dire, je prends un engagement solennel. Dans le livre de Néhémie, toute la liste des noms avec les gens de tous les âges, les femmes, les enfants, en autant qu'ils sont d'anges, d'être capables de comprendre. Nous, l'Église, on est engagés farouchement pour vos enfants, mais il y a une ligne qu'on ne peut pas faire pour vous. On ne peut pas voir tous les services, on peut essayer d'offrir tout, on va le faire passionnément, du bébé jusqu'à la personne âgée, on va offrir toutes sortes de choses pastorales. Mais je ne veux pas, écoutez-moi bien ce matin, pas de condamnation, pas de comparaison. Ne faites pas de condamnation de dire, ah, c'est ça, mais mes enfants ne suivent pas le Seigneur, c'est terrible, je suis condamné parce que Claude a dit, je suis pas un bon chrétien. Pas de comparaison, comment ça se fait que les siens sont corrects, les miens sont pas corrects. Pas de comparaison, pas de condamnation, mais une conviction et un courage de dire, je lâcherai pas, j'abandonnerai pas, je reviens au combat, je veux m'engager envers mes enfants. Et ceux qui prennent cet engagement ce matin, dites un dernier amen de la matinée et applaudissez. Levons-nous ensemble, levez-vous. Et applaudissez avec moi les possibilités que Dieu nous donne. Allez, remplissez ce lieu. Me and my house. Alléluia. Alléluia. Tendez vos mains devant le Seigneur et commencez à dire le nom de vos enfants, à dire le nom de votre époux, de votre épouse. Seigneur, je te demande une conviction du Saint-Esprit dans ce lieu. Je prie que tu viennes sceller ce moment par la puissance du Saint-Esprit. Je prie que des gens mariés prennent un engagement à nouveau devant Dieu. Que des parents, les pères, les mères, les enfants. Seigneur, nous levons nos voix et nous voulons avoir nos filles à côté de nous sur le mur. Nous voulons avoir nos fils à côté de nous, avec nous, nos époux, nos parents. Et Seigneur, nous te prions, nous refusons toute condamnation. Nous refusons toute comparaison. Mais nous te demandons, remplis-nous de conviction et de courage. Je vais parler, je vais prier, je vais pardonner, je vais partager, je vais persévérer, je vais protéger ma maison, protéger mon enfant. Des pères qui vont mettre leur culotte ce matin et dire, on va s'asseoir, on va regarder les vidéos que tu regardes, la musique que tu écoutes, mon fils, qui va plaider avec son fils ou sa fille. Seigneur, viens nous remplir de conviction. Je prie que les hommes de cette église soient purs pendant l'été 2005. Que lorsqu'ils vont se retrouver à leur travail, dans des terrasses, dans un terrain de camping ou à la plage, ou seuls dans un hôtel à quelque part, que leur cœur va se souvenir de ce message. Que leur vie, Seigneur, va être s'embrasée avec un désir d'être des hommes purs devant le Dieu dans le nom de Jésus. Laissez-moi entendre des hommes et des femmes qui s'engagent envers leur famille, s'engagent envers leurs épouses. Me voici à tes pieds, Seigneur, pour te demander une touche de ta présence. Vois mon désir de te servir et je te donne tous mes rêves. Je te donne mes enfants, je te donne ma famille et mon foyer. Et ce matin, je veux m'abandonner à toi et prendre un engagement devant toi dans le nom de Jésus. Oh, me voici à tes pieds pour te demander une touche de ta présence. Voici à tes pieds. À tes pieds pour te demander une touche de ta présence. Vois mon désir de
donne tous mes rêves. Me voici à tes pieds pour te demander une touche de ta présence.
Me voici à tes pieds, mon
me voici à tes pieds pour te
engagement devant Dieu. Pendant que les musiciens jouent la mélodie, allez-y, faites votre engagement là où vous êtes devant Dieu. Dites le nom de vos enfants. Dis le nom de tes frères et de tes sœurs à voix haute. Dis le nom de ton épouse. Dis le nom de ton mari. Dis le nom de tes parents. Dis le nom de tes enfants. Rappelle leur nom, Seigneur, grand et redoutable. Je combats pour mon fils. Je dis à mon ennemi, je refuse d'entrer dans la terre promise. Avec mes enfants en arrière, mes enfants vont venir avec moi, à côté de moi. Je m'engage dans mon mariage, je m'engage dans la pureté, je m'engage dans la sainteté, je m'engage dans mes regards, je m'engage dans mes paroles, je m'engage, Seigneur, dans mes pensées, à être un homme pur, à être une femme droite, à combattre pour ma famille. Je m'engage envers l'Église pendant l'été 2005. Je m'engage envers la maison de Dieu. Je m'engage envers mes valeurs chrétiennes. Dans le nom de Jésus, dans la grâce de Dieu, je ne te trahirai pas, Seigneur. Je n'abandonnerai pas. Je ne laisserai pas. Je ne serai pas de ceux qui abandonnent. Par la grâce de Dieu, je vais persévérer jusqu'à la fin. Par la grâce de Dieu, je vais continuer dans tes commandements. Garder tes commandements. Garder la foi. Et protéger ma maison.
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu sans compromis.
Toute la parole de Dieu sans compromis.